Avez-vous déjà entrepris pour avoir plus de liberté et finalement vous vous retrouvez prisonnier de votre propre projet ?
Faut savoir qu'en 2012 je me lance, en 2013 je suis en PLS. En position latérale de sécurité, les sous rentrent pas, ça marche pas comme je voulais.
Bienvenue dans le podcast Travailler autrement, dédié au partage d'expériences d'hommes et de femmes qui ont montré que tout était possible. Découvrez des parcours atypiques, inspirants, indispensables pour construire le monde de demain et surtout une même aspiration, le bonheur au travail.
Je crois que la base de tout, c'est vraiment l'amour de la liberté. C'est vraiment, moi j'ai par exemple pas du tout aimé l'école, j'ai pas du tout aimé travailler dans une entreprise parce qu'on est vraiment tenu d'obéir, d'arriver à l'heure, de faire ce qu'on dit. Etc. Donc j'ai voulu déjà devenir entrepreneur pour la liberté. Et depuis que j'entreprends, ma priorité c'est toujours la liberté. Et dans liberté, j'entends surtout avoir du temps. Donc ma priorité c'est d'avoir du temps, pas forcément d'avoir de l'argent. Maintenant, une entreprise, elle ne marche pas sans argent. Donc il faudrait essayer vraiment de trouver l'équilibre entre les deux.
Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous avons le plaisir de partir à la rencontre d'Emmanuel. Entrepreneur dans l'âme, de passage à Montréal pour un tour du monde, il va nous partager son amour de la liberté et nous donner les clés pour entreprendre et voyager en même temps. Et surtout, il va nous parler de l'entreprise libérée. Bonjour, bonjour Manu.
Bonjour.
Merci d'être là à Montréal.
Avec plaisir, merci de me recevoir.
C'est assez rigolo parce qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi en Inde. Et puis là, tu me dis que tu passes à Montréal, et puis on discute, et j'apprends que tu as un concept d'entreprise libérée. Alors, c'est l'objectif de notre échange aujourd'hui, parce que tu fais le tour du monde, et tu as une entreprise. Alors moi, je voudrais savoir comment on fait, comment t'en es arrivé pour être là.
Alors, j'ai commencé par grouper des commandes d'autocollants, c'est-à-dire que j'avais les techniques de l'imprimerie. L'imprimerie, ça coûte plutôt cher, surtout quand on veut faire de la qualité et dans le stickers. Et j'ai commencé donc à grouper des commandes d'autocollants de super bonne qualité pour faire des petits prix. Donc j'ai été voir des gens dans ma ville de Nantes qui étaient des graffeurs, des graphistes, des disquaires, SketchUp, etc. J'ai pu réunir une dizaine de commandes sur ce qu'on appelle une planche. Donc plutôt que d'imprimer une seule planche pour un seul client, tout d'un coup on imprimait une seule planche pour 10 clients et on pouvait économiser énormément sur les frais d'impression. Donc là ça a commencé à marcher en fait. Donc je commençais à avoir une clientèle, à optimiser déjà un petit peu mes process d'impression et comment je fonctionnais. Et avec j'ai un ami développeur à Nantes, Adrien, avec qui on a développé une boutique en ligne. C'est-à-dire qui permet de faire exactement la même chose que le groupement de commandes en manuel avec les gens, sauf que les gens tout d'un coup peuvent passer commande en ligne, peuvent trouver le site internet en tapant des mots-clés. C'était le projet, c'était de faire de l'impression stickers, groupement de commandes en sérigraphie.
D'accord, et comment s'appelle l'entreprise ?
Donc c'est iStickers, H-I-G-H, comme iQuality-stickers.com. Et ensuite, depuis 2012, on a de cesse d'améliorer la boutique.
La boutique se développe, mais en 2013, Emmanuel se retrouve inconscient en position latérale de sécurité. Et donc en fait, tu t'es dit, je veux ma liberté, donc je veux entreprendre, je veux être à mon compte ou entrepreneur après voilà. Dans le statut. Et là, tu te retrouves prisonnier de ta propre entreprise en fait.
Exactement. Au bout de 6 mois, je me retrouve vraiment dans le fond de mon lit à me dire, putain, qu'est-ce que je fais? Je rentre pas d'argent. Et ça a commencé à prendre un petit peu. Moi, au bout d'un an, j'avais plus le choix. J'ai rendu les clés de mon appartement que je louais. Mais j'ai rien lâché. Voilà. C'était dur. Voilà, les sous rentraient pas. Mais j'ai rien lâché. Donc, on a continué. Et petit à petit, ça a commencé à prendre. Pas suffisamment pour se payer réellement. Mais au moins, pour payer toujours les fournisseurs. Pour payer Adrien qui faisait les développements du code. Et puis, moi, je vivais sobrement. Et comme je disais, au bout d'un an de cette aventure, je rendais les clés de mon appartement. Je retournais chez mes parents.
Et qu'est-ce qui te faisait que tu voulais pas arrêter? Qui disait non, mais je continue.
Pour moi, c'était hors de question de retourner dans une vie salariée, à retroquer 35 heures de mon temps par semaine pour être payé au SMIC.
Donc tu savais qu'en fait, c'était comme un investissement pour l'avenir, en fait, qu'il y avait quelque chose qui allait aboutir après par la suite.
Exactement. Puis petit à petit, à partir de 2013, mon entreprise a commencé à faire un peu plus de bénéfices.
Donc au bout d'un an, tu commences à faire en sorte que l'entreprise soit rentable. En tout cas, génère plus de chiffre d'affaires.
Au moins, voilà, je paye mes fournisseurs, tout le monde est payé. Moi, je ne me paye pas forcément beaucoup, mais déjà, j'ai fait en sorte d'avoir un minimum de charges. Je vis chez mes parents ou à gauche, à droite aussi. Et c'est là où j'ai commencé à voyager. Parce que je me suis rendu compte que reprendre un appartement, alimenter une vie sédentaire, payer des factures, etc., c'est excessivement cher. Et que, par exemple, pour 6 euros, je pouvais aller me mettre à Berlin, dans une auberge, et payer moins de 200 euros par mois pour vivre dans une super ville où j'allais développer ma créativité, où j'allais pouvoir faire des connexions, rencontrer des gens, développer la boutique en ligne, foutre la paix à mes parents, tes parents. Et j'ai commencé à me faire des petits voyages comme ça.
Et comment tu t'es donc, tu pouvais travailler en ligne en fait de ton ordinateur avec juste une connexion internet?
Exactement. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un téléphone, un ordinateur et d'une connexion internet.
T'as une boutique en ligne, ce qui te permet ça. Donc tu commences à voyager, mais t'es toujours dans le statut entreprise classique. Toi, comment tu te sens? Même si tu voyages, est-ce que tu te sens toujours libre? Quoi tes difficultés? Comment tu vis ton entreprise?
Alors, les
avec les années
qui
évoluent.
C'est aussi compliqué, en fait, de gérer toute une entreprise et tout un organisme en étant dans un autre pays, tout seul, avec son ordinateur, son téléphone, dans un café à gauche à droite. Donc ça demande aussi de rentrer régulièrement à Nantes, ça demande d'avoir des relations de confiance très bonnes avec son environnement.
Et puis qu'est-ce qui se passe donc à un moment donné, l'entreprise se développe, elle grossit.
Donc c'est là où je commence à travailler de plus en plus, avoir de plus en plus de clients, de plus en plus de demandes. Donc tous les jours c'est un peu la même rengaine, il faut absolument tout gérer. Donc en même temps les demandes de clients, les demandes de SAV, préparer les commandes qui arrivent aussi. Et je me retrouve avec des boîtes mail énormes, des commandes qui arrivent, mais sur un système de boutique en ligne qui n'est pas vraiment optimisé pour gérer un flux énorme. Donc chaque commande demande beaucoup de clics. C'est là où Arthur rentre en scène. Et à partir de 2016, moi j'ai envie de passer à autre chose. À ce moment-là, ça fait déjà 10 ans entre l'apprentissage, la phase de salarié et le développement d'iSticker. Ça fait déjà 10 ans que je fais ce travail en fait de préparation de fichiers, de suivi de commandes à l'impression, d'impression aussi quand j'étais en atelier. Et là, je décide d'embaucher. Et là, je me dis comment on fait? Comment je fais pour prendre quelqu'un? Et comment je fais pour prendre quelqu'un qui va accepter de travailler en ligne, qui va pas arriver au bureau parce qu'il n'y aura pas de bureau, qui n'aura pas d'horaire parce qu'il n'y aura pas d'horaire, qui va accepter d'avoir un travail aléatoire avec des jours où il y aura 10 commandes et des jours où il y en aura 2. Comment c'est possible? Et donc vraiment là, je commence à me renseigner. Je me renseigne aussi voilà, sur les modes de management alternatifs. Moi, j'ai aucune envie d'être sur les côtes de quelqu'un qui travaille pour moi. J'ai aucune envie d'être du matin au soir à l'appeler, à savoir s'il est bien là à l'heure, à savoir s'il a bien fait ci ou ça. Donc je me renseigne, je commence à lire voilà, le management pour les nuls. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le Manager Minute. Ça va être Ken Blanchard, si je dis de bêtises, qui lui apprend justement comment on peut déléguer des choses très clairement, très facilement. Et je vois que aux Amanins, qui est un lieu alternatif en France, qui fait de la formation, qui est une éco-ferme en fait, créée par Pierre Rabhi entre autres, font une formation à la sociocratie. Donc j'étudie ça pendant 2 jours, je suis à fond.
Qu'est-ce qui te parle? Pourquoi ça t'interpelle autant? Pourquoi cette
Parce que j'ai une aversion, je pense vraiment pour l'obéissance, pour la hiérarchie. Moi j'ai vraiment souffert à l'école de devoir obéir, de devoir me taire parce que quelqu'un qui avait l'autorité me le demandait.
Donc t'as l'impression que dans ce modèle-là, en tout cas de ce que tu vois de sociocratie, il y a une liberté d'expression. Ou la possibilité de s'exprimer, ou de partager.
Y a une volonté d'être ensemble et de faire ensemble. Et de ne pas déléguer justement la prise de décision. Et d'en souffrir d'une prise de décision qui n'est pas la nôtre, qu'on n'aurait pas forcément voulu. Apporter quelque chose de nouveau en société et pas juste des process à respecter par quelqu'un qui sait mieux que les autres et qui aura décidé pour les autres comment ça doit se passer. Et en fait, je découvre que ce mode de fonctionnement est carrément plus...
Pourquoi d'ailleurs, plus efficace
parce qu'on va se retrouver par exemple dans une organisation pyramidale en général, on va se retrouver avec des gens qui sont en haut, qui vont analyser des tableurs, qui vont avoir des indicateurs de performance qui vont pas forcément être très bons, ou qui vont être que des choses très normées, ce qui est pas forcément la meilleure manière de prendre des décisions, alors que quand on prend les décisions du bas, ceux qui font remonter les idées sont ceux qui sont directement au front, c'est ceux qui vont être en relation avec les clients, qui vont être en relation avec les fournisseurs, c'est ceux qui font tourner la machine. Donc en entreprise, c'est plus intéressant d'avoir ces gens-là au contact réel du monde, qui font remonter les suggestions, qui sont encouragés à le faire, qui sont contents de participer, qui sont contents de prendre les décisions et qui prennent donc des décisions finalement pour eux-mêmes et pour l'organisation et qui seront d'autant plus efficaces et volontaires pour appliquer les décisions qu'ils auront prises plutôt que d'appliquer des décisions qui auraient été prises par un conseil d'administration. Et il y a cette notion d'efficacité.
Réalité en fait. Quand tu parles de contact réel du monde, c'est-à-dire qu'on est en face avec en tout cas la réalité, ce que tu parles, mais en tout cas on connaît notre métier.
Là où un conseil d'administration qui va gérer juste les finances ou qui a fait des grandes écoles de commerce ou de management n'a pas forcément le retour sur un problème technique qui se passe. Voilà, il y a plein de choses intéressantes. En réalité, quand on commence à creuser, on peut parler du lean management, on peut parler de tout ce qui est l'entreprise libérée.
Et à la suite de ce stage, en rentrant de covoiturage, Emmanuel va avoir une discussion qui va changer le cours de son entreprise.
J'ai rencontré Jérôme Jambu, qui est quelqu'un qui travaille chez Chronoflex, qui est un exemple d'entreprise libérée. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert la notion d'entreprise libérée. Entreprise libérée, c'est quoi? Qu'est-ce que ce truc?
Alors, c'est quoi une entreprise libérée?
Ah là, vraiment, je me demande qu'est-ce que c'est ça. Donc je comprends que bah, c'est des entreprises qui ont pris ces notions un peu de sociocratie. Il y a d'autres concepts comme la holacratie libérée. Donc après, j'arrive chez moi, je tape sur Google, entreprise libérée, qu'est-ce que c'est? Et je vois qu'il y a un certain Isaac Gate qui a fait des recherches sur des entreprises qui fonctionnent justement différemment et sur ce système de la base qui fonctionne tous ensemble et très peu d'hierarchie. Je lis son bouquin qui doit s'appeler Liberté et compagnie. Je le dévore, je pète un plomb. Il y a plein d'exemples, Harley Davidson aux États-Unis, etc. Plein d'entreprises qui étaient en difficulté, qui tout d'un coup ont changé de mode de management, sont passées là-dessus et ont eu des super bons résultats. En plus de créer bah, des conditions de travail extraordinaires. Je me dis, ouais, c'est ça que je veux faire.
Et si tu peux nous dire, pour toi, si tu résumes en trois courtes phrases.
Pour moi, c'est une entreprise avec un minimum de hiérarchie où chacun est libre de porter son propre leadership, de porter ses idées, où c'est accueilli, où c'est favorisé. Ça change complètement les relations humaines au sein d'une organisation. C'est difficile à définir. Il y a plein d'idées, de fausses idées, il y a plein de concepts détournés, de gens qui réclament d'entreprises libérées, mais quand on regarde dans les faits, on sent que c'est plus de la communication que vraiment du réel. Je crois qu'aujourd'hui, ça c'est encore très jeune et il n'y a pas vraiment de définition, chacun a sa propre définition. Dans mon organisation, en tout cas dans laquelle je suis, c'est le principe d'équité. Donc déjà à partir de ce moment-là, donc Arthur est rentré comme salarié, avec Adrien qui travaille toujours comme développeur indépendant, et avec nous trois, la première chose que j'ai faite pour passer sur un modèle d'entreprise libérée, c'est de proposer qu'on soit tous rémunérés de la même chose. Donc c'est-à-dire que tout d'un coup, bah, c'est plus moi qui prenais tous les sous à la fin, ou qui les prenais pas s'il n'y avait pas d'argent, et tout le monde était payé avant moi. Donc à ce moment-là, j'étais plutôt mieux payé, et les autres plutôt moins bien. Et le premier truc que j'ai fait, c'est de faire en sorte que tout le monde soit payé la même chose.
Est-ce que c'était une discussion commune où vous en avez parlé tous ensemble pour faire le vote de la meilleure rémunération? Ou c'est toi qui as dit
non,
en fait,
pas,
je veux que ça soit.
C'était une proposition. Voilà les gars, est-ce que ça vous dit qu'on se rémunère la même chose? L'idée derrière ça, c'est que si on se rémunère la même chose, ça veut dire que bah, plus on va taffer dans l'entreprise, plus l'entreprise va faire de résultats. Et plus on va tous pouvoir se rémunérer.
D'accord.
Plutôt que d'avoir quelqu'un en bout de course qui se prend tous les bénéfices de tout ce qui a été fait et produit par l'organisation avec des gens qui sont payés un salaire. Là, tout d'un coup, on est vraiment intéressé aussi par un résultat financier.
Et toi, le fait de passer d'un autre modèle sur la rémunération, est-ce que tu as dû lâcher des choses sur ton ego, sur la confiance? Ça t'a fait personnellement, qu'est-ce que tu as dû travailler en toi?
C'est un gros lâcher-prise. Déjà, quand on entreprend ce genre de choses, c'est un peu comme un grand saut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de machine arrière. Il n'y a pas de ouais, les gars, ça vous dit, on se partage tous les bénéfices. Et du coup bah, tout le monde a un peu mieux payé dans l'organisation. Et puis 6 mois plus tard, ah ouais non en fait ça marche pas, c'est moi qui décide, on refait comme avant, je vais vous payer ce que je vous payais avant. Et puis il faut vraiment étudier le truc, et du coup il va falloir s'adapter.
Et là donc tu changes de modèle de rémunération, tu commences, bah, qu'est-ce qui s'est passé après par la suite? Parce que des fois on commence des nouveaux modèles et puis il faut s'ajuster, il y a des choses à vivre, des choses personnelles, on se rend compte que c'est pas si évident que ça.
Alors après la rémunération, on va dire que c'est le minimum, c'est
d'accord.
Vraiment ça devrait être la base, ça devrait être dans toutes les entreprises comme ça, bon, je pense que toute l'organisation devrait bénéficier des mêmes revenus. Mais c'est pas tout. Donc pour ça, il y a d'autres choses qui vont avec. C'est-à-dire que j'ai ouvert tous les process, toute la lecture de l'entreprise à notre petit triptyque, et y compris bah, par exemple les comptes bancaires et la comptabilité. Donc là, tout d'un coup, transparence totale.
Et toi, le fait de, parce qu'il y a le fait de le penser, l'imaginer, d'être, de se dire oui, mais ça me paraît évident, et de le faire dans un modèle où on a caché, où on n'a pas grandi dans un modèle où je transparent. Comment toi tu l'as vécu intérieurement?
Ouais, plutôt bien. J'avais une pleine confiance dans mes collaborateurs, Adrien, Arthur, à ce moment-là.
Donc la base, c'est vraiment d'avoir la confiance dans ses collaborateurs.
Ouais, confiance, et puis peut-être un petit goût du risque, parce que ça pourrait mal se passer. Parce que ça veut dire ouvrir les comptes. Ça veut dire partager les logins de comptes bancaires sur lesquels il y a plusieurs milliers d'euros et qu'il y ait des flux qui passent. S'il y en a un qui veut faire une dinguerie, se retirer des sous, se retirer de la civilisation et partir, techniquement, il peut le faire.
Donc, et t'as pas cette peur-là? T'as pas ce...
Non.
Et là, vous êtes trois, mais si vous êtes une grosse équipe de 50 salariés,
ouais, c'est minimum. Très certainement différent. Peut-être que là, il y a juste un niveau de lecture à mettre sur la comptabilité, etc. Peut-être que c'est juste les comptes de résultats à partager et pas vraiment le compte bancaire. Et
d'accord.
Tout d'un coup, bah, on peut voir aussi ses collaborateurs qui sont curieux, qui vont regarder. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, mais alors combien ça coûte quand on fait ça? Tiens, là, est-ce qu'on pourrait pas, il y a pas des frais qu'on pourrait peut-être supprimer, qui servent à rien? Ou au contraire, est-ce que peut-être on pourrait pas investir là-dedans? Parce qu'on s'y retrouverait sur un autre poste. Et là, on commence à avoir des discussions où je suis plus tout seul à converser avec moi-même pour savoir ce qui va va être bon pour l'organisation. Mais je me retrouve avec des gens investis qui discutent sur des chiffres réels, sur des résultats, intéressés aussi aux résultats. Donc c'est pas juste, ils font du bénévolat pour regarder les chiffres et se demander si peut-être là ce serait bien et faire du conseil. C'est des gens qui vraiment derrière ont des possibilités de développer aussi.
Donc toi, t'as vu tes collaborateurs en tout cas changer de posture à partir du moment où t'as ouvert cette vision de l'entreprise. Cette perspective.
Ouais, complètement. Donc là, commence à beaucoup mieux marcher, on a commencé à faire plus de réunions, à voir un peu plus loin. Et moi, il y avait encore, donc franchement, clairement, ça, il y a eu un avant, un après. Soit on a commencé à développer plus l'affaire, il y a eu des résultats.
Étonnamment, quand tu as changé de concept, l'entreprise s'est davantage développée et généré plus de chiffres d'affaires.
Ouais. Et plutôt que d'avoir que moi tout seul qui voit ce qui va pas, qui essaie de comprendre avec ma propre lecture et de dire, tiens, peut-être on pourrait faire ça, et puis comment je vais faire pour demander à un tel de faire ça parce qu'il a aucun intérêt à le faire. Et... bah, tout d'un coup, on se retrouve à trois. Et là, on discute. Et ouais, moi j'aurais besoin de ça, moi, tac.
Parce qu'avant, tu te sentais seul ?
Ouais, un peu, ouais, ouais, carrément. C'était une entreprise individuelle, le salaire individuel, j'étais tout seul en bout de chaîne, je payais tout le monde. Tout le monde faisait à peu près ce dont j'avais besoin, mais pour contre rémunération. Donc c'était le modèle à l'ancienne, quoi.
Et au départ, tu me parlais de liberté. Quand t'étais tout seul dans ton modèle, est-ce que tu te sentais libre ?
Ouais, alors une liberté relative. Et voilà, finalement, j'ai plus de patron, mais j'ai quand même des gens à qui je dois rendre compte, c'est mes clients. Et c'est l'organisation, c'est les gens qui sont indépendants.
Là, le fait d'avoir changé de posture, est-ce que tu te sens davantage libre ?
Ouais, ça c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on a commencé aussi... tout d'un coup, j'étais plus tout seul à aller à l'atelier. J'y allais avec Arthur et Adrien. Donc on y va, on prend le café... Et tout d'un coup, l'atelier peut parler avec Adrien, qui est le développeur web, qui lui gère un poste de l'organisation, ce qui n'arrivait pas avant en fait. Et il y a un truc qui m'allait pas dans tout ça. C'est-à-dire qu'on était toujours l'entreprise individuelle. Certes, on avait des revenus globaux de l'entreprise qui étaient repartagés entre nous trois de manière égale. Le truc qui reste gênant en entreprise libérée, c'est tant qu'on passe pas sur... tant que les collaborateurs ne deviennent pas associés. Pour moi, il y a un biais, parce que l'entreprise, elle a une valeur. Les collaborateurs et tous ceux qui travaillent dedans, participe à faire que cette entreprise prend de la valeur. Mais tant que les collaborateurs ne font pas partie du capital, entre guillemets, n'ont pas des parts dans l'entreprise, des parts égales, ça veut dire qu'ils, certes, ils ont tous les mêmes revenus, mais ils participent à créer une valeur qui est la valeur de l'entreprise auquel ils n'ont pas le droit. Et ce qui fait que pour moi, il y a un super biais là-dessus. Et ça a été cette réflexion a été le départ de la transition suivante, qui est de passer en société. Donc, Adrien, Arthur et moi avons créé une structure, une SARL. Et cette SARL, j'ai transmis l'activité, la marque, les codes, tout ce qui faisait la valeur de l'entreprise, j'ai transmis ça à la SARL. Moyennant rémunération, c'était une...
Donc maintenant, vous êtes trois associés.
Donc maintenant, on est trois. Donc on a accès au compte bancaire tous les trois, on prend nos décisions tous les trois. On a encore un peu les mêmes rôles.
Donc toi, là, tu es en tour du monde. Comment on fait pour savoir rémunérer la même manière ? C'est équitable ? Il n'y a pas des fois cette notion où il y en a quelqu'un qui travaille plus que l'autre ?
C'est une très bonne question. On est... C'est là où c'est un grand truc aussi de l'entreprise. De l'entreprise en général et de l'entreprise libérée, comment est-ce qu'on évalue le travail de chacun ? Combien vaut, c'est un rapport au temps, combien vaut une heure de gestion de la boutique à préparer des commandes ? Est-ce que ça rapporte ? Est-ce que ça développe l'entreprise ? Qu'est-ce que ça vaut une heure de développement web ? Une heure de développement web, par exemple, elle peut être à réparer des bugs, et auquel cas, elle rapporte strictement aucune valeur. Si, par contre, elle va pas être génératrice, il n'y aura pas de valeur ajoutée, si tu veux, là-dessus. Tandis que si la même heure de développement web, elle est mise à développer une page de vente qui est un peu plus ergonomique et qui va faire que les gens vont plus cliquer et donc plus acheter, et derrière il y a des résultats, bah là ça a vraiment beaucoup de valeur. Voilà, donc il y a toute cette évaluation du temps et du travail de chaque équipe.
Et vous l'avez mis en place
ou... Non, on est en train de le mettre en place là, vraiment, d'avoir un système.
Parce qu'il y en a qui peuvent peut-être ressentir un sentiment d'injustice.
Complètement, parce qu'on peut passer justement 30 heures sur une semaine à gérer de la commande sans développer l'affaire. Donc forcément, c'est des commandes qui arrivent, il faut les gérer. Ça veut dire qu'elles arrivent parce que 2 ans plus tôt, on a fait le travail de mise en place sur le site internet, donc le site internet est bien référencé, fonctionne bien, tout le système fonctionne, les commandes arrivent, il faut les traiter, ça prend du temps. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'on les traite, on développe pas l'affaire, donc quelque part, on crée pas plus de valeur pour demain.
Donc il y a peut-être un modèle de rémunération à avoir, en fait, un travail de fond sur comment on évalue tous ensemble et avec une vraie discussion le travail de chacun. Quelle est la valeur de ton travail et de ce que tu mets en place, quoi.
Pour le moment, je dirais que c'est plus intuitif. C'est-à-dire qu'on est ensemble, chacun travaille de son côté, et je pense que c'est plus une valeur perçue. On voit que lui, il est de bonne volonté, il fait vraiment... il est là, il fait son taf. Il fait l'action de la client, mais il le fait hyper bien. C'est cool, on est content. Lui, il est là, il fait son développement web, il est disponible, il travaille en même temps peut-être à réparer des choses, peut-être à développer des choses sur des concepts. On voit que l'autre, il est en train de se taper de la formation en ligne pour pouvoir développer la lecture justement sur Google Analytics, sur... des choses et peut-être demain avoir une meilleure lecture et prendre des meilleures décisions. Et on sait qu'il est là, qu'il travaille sur son truc. Et pour le moment, on en est là. Et il y a un équilibre, il y a de la confiance. Et ça fonctionne plutôt bien dans le sens où la boutique tourne. Tous les mois, bah, on sort des euros de manière égale. Une autre idée juste sur ce que je viens de dire. Donc, on travaille tout ça comme on veut, dans la confiance, mais aussi dans la liberté. C'est-à-dire que si demain, Adrien, par exemple, il a pas que ça à faire, il veut aller faire de la photo, il aime faire de la photo, donc il prend son temps, il fait des trucs, il a strictement aucun compte à me rendre. Il fait ce qu'il veut. Moi, demain, je veux faire... je suis sur d'autres projets. Voilà, j'ai envie d'enregistrer un podcast avec Mathilde. Donc, voilà, je suis pas là sur mon ordinateur en train de faire des choses pour iSticker. Donc ça, c'est aussi le concept de liberté qui est hyper important.
De confiance, en fait, de confiance entre études, de gestion du temps. Tu gères ton temps comme...
Voilà, tu gères ton temps et la valeur que tu apportes à l'entreprise en confiance. Et ça nous est pas encore arrivé, mais je pense que si demain, il y avait un ressenti que peut-être un collaborateur est pas vraiment présent ou il est pas assez actif pour développer l'affaire ou pour être ensemble, quoi. Bah, ça serait se dire.
Donc, une communication transparente, en tout cas. Quand on est face à une difficulté ou un enjeu ou un doute, on le partage et on communique.
Ça, c'est une clé aussi. La communication proactive. C'est-à-dire, voilà, rendre des comptes un peu sur ce qu'on fait au quotidien. Puis de savoir qu'on est là. Puis plutôt que d'avoir quelqu'un qui contrôle et qui va dire, tiens, est-ce que t'as bien fait ça? C'est plutôt à l'inverse, les gens qui vont dire, là, j'ai fait ça. Puis, tu vois, là, les gars, j'ai fait ça. Voilà, ça c'est fait. Et puis on a des réunions régulièrement, ça dépend des fois, peut-être une fois par mois, où on va se dire, on va prendre une sorte de gros compte rendu et on note un peu les idées du moment, ce qui a été fait, ce sur quoi on avance, et ça nous permet d'avoir un suivi daté et de revenir sur la fois d'après, de se dire, ah tiens, là c'est vrai qu'on avait parlé de ça, où est-ce qu'on en est, ça c'est fini, c'est fait.
Et c'est quoi ta vision du coup pour la suite? Parce que là vous êtes trois, est-ce que vous voulez faire grossir l'entreprise?
Ma vision, personnellement, je ne vais pas engager mes collaborateurs, c'est de réussir à beaucoup mieux mesurer tout ce
que... Donc, temps, là, ce que tu nous parlais, le...
Exactement. Là, mon objectif en ce moment, c'est d'automatiser et d'avoir une meilleure lecture de la... Pour prendre des meilleures décisions et pour libérer encore plus tout le monde du travail, entre guillemets, obligatoire quand même, le travail minimum qu'on a pu être. C'est vrai qu'on travaille au minimum, c'est vrai qu'on ne se paye pas énormément, mais on a cette liberté qui est le cœur de ce que je voulais...
Donc toi, la base, si quelqu'un se dit « Ah ben voilà, j'ai une entreprise, puis je veux changer de modèle parce que je me sens seule, parce que sur toutes les raisons, je crois à un autre modèle possible, je voudrais davantage engager mes collaborateurs », qu'est-ce que tu lui recommandes? Comment on fait?
Lire des bouquins de management classiques et des bouquins sur les entreprises libérées, il y en a de plus en plus. Isaac Getz fait des recherches qui sont extrêmement bien documentées, ils sont très bien écrits, c'est absolument passionnant à lire. Un livre que je recommande aussi qui est fait par le créateur de Chronoflex, qui s'appelle Le patron qui ne voulait plus être chef, que je recommande, et pour moi un grand truc, c'est la communication non violente, un truc de base à apprendre, comment s'exprimer sans incriminer les autres et en s'exprimant de soi. Donc partir de soi tout le temps.
Il y a vraiment une base de communication, de transparence et d'incarner ça en fait.
Ouais.
De vraiment l'incarner pour pouvoir que tes collaborateurs se mettent sur le même modèle.
Ouais. Un conseil aussi, c'est d'essayer de pousser les autres. Essayer vraiment de comprendre les autres. C'est vraiment de comprendre profondément les autres et ça passe par l'empathie. Ce qui pourra développer l'empathie, c'est de se mettre à la place des autres, de comprendre comment ils fonctionnent et de se mettre à leur service. C'est-à-dire, si lui, il fonctionne comme ça, lui, ce qu'il veut, c'est ça. Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il obtienne ça? Comment, si lui, son truc, c'est la photo, finalement, et c'est pas travailler sur iStickers, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il travaille encore moins pour garder ses revenus et qu'il puisse faire le plus possible ce qu'il aime vraiment? Et qu'il soit le plus heureux dans sa vie. Parce qu'au final, c'est ça le truc, c'est de réussir à être confortable dans sa vie.
Est-ce que tu constates une différence lorsqu'on a une entreprise libérée? Est-ce que tu te sens plus heureux? Est-ce que tu sens tes collaborateurs plus heureux? En tout cas,
écoute, là, je suis à Montréal, je suis avec toi, c'est croisé il y a 2 ans, on se contacte, on prend un petit café, on prend un brunch ensemble, c'est cool. Cet été, juillet, août, on était dans les Caraïbes, à se balader, à faire des Airbnb.
Donc le bonheur au travail, ça existe alors?
Voilà, ça existe. Il y a la petite part de travail qui est bien faite, qui est ergonomique pour qu'elle soit facile et qu'elle soit agréable.
Qu'elle t'enrichit aussi intellectuellement.
Qu'elle soit intéressante aussi avec les gens avec qui on travaille, dans des bonnes relations. Et puis à côté, pour se libérer un maximum de temps et faire aussi d'autres choses qu'on aime, pour découvrir le monde. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment explorer. Là, on vient de s'acheter des vélos avec ma chérie, et puis on part se balader au Canada. Et on sait qu'on va devoir passer 4 heures par jour sur nos ordinateurs, à voir un peu ce qui se passe, à créer, etc. Mais on est passionné, on ne sait pas faire autre chose.
Toi, tu as décidé d'avoir une plus petite structure et d'avoir ce modèle de voyage. Il y en a, ça va être à proportion de grosses entreprises et qui vont être plus, vont vouloir rester sur un même territoire, ouais. à faire le
en
tour
fait,
du monde.
Chacun a...
Faut vraiment s'écouter et faire ce qui nous souhaite, en fait, enfin, ce qui nous aligne, en fait.
Complètement.
Essayer de réfléchir à comment on met en ouais. place tout ça.
Et c'est pas parce que nous, on veut ça, que l'autre en face, il veut forcément ça.
Et est-ce que tout le monde peut être une entreprise libérée, selon toi ? Est-ce que tous les salariés peuvent
Je pense que déjà, lire les bouquins dont je parlais, c'est intéressant parce que ça va permettre de comprendre des concepts et peut-être d'apporter des petites choses, des petits changements qui vont juste mettre plus de bonheur au travail, mettre de l'huile dans les relations, etc. En faisant plus confiance aux collaborateurs, voilà, mettre des meilleures relations.
Donc peut-être tu reparles de notre entreprise libérée et bonheur au travail, ça va ensemble ?
Ouais, ça va ensemble. Il y a presque à un moment donné, on ne parle plus de travail. C'est-à-dire que c'est tellement un plaisir de développer son affaire parce que ça devient, c'est notre entreprise. Donc c'est un peu notre bébé à un moment donné. Et ça fait vraiment plaisir de le développer, de voir qu'il avait tel résultat à un moment donné. Et puis qu'on l'a nourri, on lui a donné ça, on lui a mis un meilleur environnement, on lui a simplifié les choses, on lui a enlevé quelques freins. Et on voit que la période d'après, hop, il s'est développé. C'est juste hyper satisfaisant.
Donc c'est une richesse en fait.
C'est presque plus un travail quoi. C'est-à-dire que ça fait plaisir et on y va avec le cœur. Et je pense que le jour où ça fait plus plaisir, il faut juste trouver des moyens de sortir.
Est-ce que tu aurais un message à dire à des personnes qui du coup... sont dans cette recherche de bonheur au travail, d'être heureux.
Je pense qu'on est dans une période vraiment dramatique au niveau de l'humanité, au niveau environnemental. Une des raisons pour laquelle on est à ce point-là, c'est pour des raisons démocratiques, nos manières de fonctionner ensemble. Et dans ce qui est des entreprises libérées, de la sociocratie, de la holacratie, et tout ce qui est des alternatives à la démocratie participative, ou le système pyramidal en général, il y a vraiment des choses à prendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui résident, au-delà d'agir directement pour l'environnement, il y a beaucoup de solutions qui viennent du fait de mieux fonctionner ensemble, et de fonctionner ensemble sur des bases d'égalité.
Donc toi, tu penses que ça peut être une réponse au modèle de demain, on parle d'environnement, etc. Mais déjà, c'est la base, c'est peut-être de mieux vivre ensemble, mieux travailler ensemble.
Ouais.
Parce que peut-être que si on est malheureux dans son travail, etc., penser à l'environnement, penser à tout ça, déjà, le cerveau est pris
complètement,
dans plein de choses. Alors que si on se libère de ça et on fait une joie, eh bien, déjà, il y a plus d'énergie pour s'investir dans autre chose. Quoi.
Complètement. Mais vraiment pas négliger les relations humaines et comment on fonctionne ensemble. La résolution de l'écologie, je pense pas que ça passe par des solutions imposées. Je pense que ça passera vraiment voir plus de démocratie, des démocraties de meilleure qualité, plus de dialogue. Et
donc
voir qu'en fait, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. Et la question, voilà, c'est comment est-ce qu'on fonctionne ensemble.
Finalement, tu crois en l'humain, alors ?
Complètement. Ouais, j'ai une confiance, ouais. Je pense que la confiance en soi, la confiance en les autres, la confiance en l'avenir, c'est ouais, aussi une base.
Et finalement, est-ce que l'entreprise libérée serait pas un modèle ou en tout cas une inspiration pour notre monde de demain ?
Même, on peut enlever le mot entreprise, plus la liberté, la notion de liberté. Comment est-ce qu'on peut la développer ? Comment est-ce qu'on peut rendre ça aux autres ?
Et un jour, c'est payant.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci.
Et puis j'espère que le message, ton parcours va inspirer d'autres sur cette société plus libératrice de soi.
Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Travailler Autrement. Vous pouvez suivre les aventures autour du monde de Manu sur YouTube et Instagram sur le nom de Manu Daveau, D-A-V-E-A-U. Et si vous avez besoin d'une commande de stickers, je vous invite à aller faire un tour sur son site heightstickers.com. Et quant à nous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres inspirantes et atypiques.